Martine, merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps », à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bon début de matinée. Alors c'est formidable de pouvoir démarrer quelque chose, et oui, une matinée, une journée, une semaine, comme l'écrivait Catherine Rambert, rédactrice en chef de Téléstar, journaliste et auteur de plusieurs livres de philosophie. Elle disait « Chaque jour qui commence est une page vierge, une étendue de temps qui n'a pas encore été vécue. On peut y écrire ce que l'on veut, il n'appartient qu'à soi de réussir cette journée malgré ses contraintes et ses obligations. » Eh bien, nous allons la réussir ensemble cette journée.
Prémices de l'humaine, naissance des sirènes, j'ai peur ni la 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 li ou de monde au paradis. Oh, début, il y a eu le Big Bang, et puis l'inconnu avait le chaos, le yin et le yang. Il n'y avait que toi, il n'y avait que moi, moi j'étais Adam, toi Ève ou bien vice versa, entre toi et moi. Tout a commencé par un très long baiser. Oui, ça, on sait que tout a commencé par un très grand éclat de joie. Moi, ce que j'aime, c'est les débuts. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. Prémices de l'hymen, naissance des sirènes. J'ai peur ni la 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 li ou de monde au paradis. Puis, peu de temps après, y a eu le déluge. Une grosse averse est tombée sur nos idées de démiurge. Y a de l'eau dans le jazz et du jazz dans le ravin. Tagada tsuntsu. Comment se jouer du bonheur usé. On est comme les petits lapins de la publicité. On tape sur le tambour jusqu'à épuisement de l'amour. Mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. J'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. J'ai pas ni la 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 li ou de mambo paradis.
Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'était le groupe Paris Combo et sa chanteuse Belle Duberry. Et c'est sur Radio Plus. Alors, dans l'air du temps, aujourd'hui, Jean-Louis Ouattet, président de l'Extrême Nature, pour notre rubrique Saletant sur la planète. Et nous parlerons science participative, un terme un petit peu rébarbatif. Mais si je le remplace par science citoyenne ou science collaborative, cela sera peut-être un peu plus explicite. Et puis Jean-Louis, justement, vous en dira plus et vous expliquera comment vous aussi, vous pouvez être acteur et contribuer à l'amélioration des connaissances sur la biodiversité. Et puis dans un même élan, Bertrand Trinel, dans la rubrique Jardiner autrement, nous donnera comme d'habitude des petites astuces pour justement la préserver, cette biodiversité. Et enfin, nous retrouverons Christine Defort de la SPA d'Artois qui nous rappellera ce rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Rendez-vous avec l'humour, le rire et la chanson au profit des petits protégés du refuge de Vermel.
Chez Monsieur Lee, il y a de l'encens, de l'eau de vie et des œufs de 100 ans. Chez Monsieur Lee, au palais de Shanghai, il y a aussi de jolis éventails, des belles de nuit cachées au fond des verres, des dragons fruits à côté du thé vert. Tout un foyer fait de radio réveil, de couvre-lit et de boucles d'oreilles, poudre de riz, fourreau de soie rose. Chez Monsieur Lee, il y a tant de choses, des parapluies, des chaussons pour enfants, 3 singes assis sur un pot de safran. C'est tout petit et tout est en pagaille chez Monsieur Lee au palais de Shanghai. Aussi, près d'un serpent qui dort, sur un tapis, un autel rouge et or, quelques offrandes, une orange et 2 pommes, gâteau d'amande, gingembre et cardamome, porte-bonheur, démons et merveilles, un être meurt, mais un autre s'éveille. Il y a chez lui une part de mystère, et s'il sourit, il aime aussi se taire. Qui sait ici qu'il a connu l'enfer et s'est enfui en radeau sur la mer. Chez Monsieur Lee, il y a de l'encens, de l'eau de vie et des œufs de 100 ans. Il y a aussi de jolis éventails chez Monsieur Lee au palais de Shanghai. Il y a aussi de jolis éventails chez Monsieur Lee au palais de Shanghai.
Gilbert Lafaye qui nous faisait visiter le palais de Monsieur Lee et qui nous fait pénétrer avec cette chanson une nouvelle fois dans son univers de tendresse et de poésie. Alors, notre enquête dans l'air du temps, il paraît que manger des sandwichs serait très mauvais pour l'environnement. Une étude publiée par l'université de Manchester en Angleterre démontre que la consommation annuelle de sandwichs au Royaume-Uni a le même impact sur la planète que l'utilisation de plus de 8 millions de voitures par an. Les pires pour l'environnement sont ceux contenant de la viande de porc, c'est-à-dire au bacon, au jambon ou aux saucisses, et ceux contenant du fromage et des crevettes.
pâtes. À l'inverse, le sandwich le moins polluant reste le traditionnel jambon beurre, fait maison surtout, parce qu'en fait, c'est la production, la transformation, la conservation au frais des sandwichs, leur emballage et le transport qui expliquent leur impact sur l'environnement. Alors, les auteurs de l'étude estiment que leur empreinte carbone pourrait être réduite de 50% en modifiant les recettes, en modifiant l'emballage et le recyclage des déchets et en repoussant leur date de péremption. Si vous voulez, on pourrait peut-être les manger avariés aussi. Nous, on serait malades, mais au moins la planète se porterait mieux, n'est-ce pas ?
Le ciment, je l'attends, le ciment pour la maison. J'ai la main, j'ai le plan, les parpaings, c'est peut-être pour maintenant. Il est bien, le terrain, il est lourd, il est profond. Pour un petit garçon, dans pas longtemps à la maison. Sur les murs, la peinture pour les couleurs. Il est beau, le terreau. Au jardin, il y aura des fleurs aussi. Du lilas, bégonia. Du soja, des myrtilles, des jonquilles. Dans le nid, il y a une coquille, c'est une petite fille. Quelques enduits et je termine. 7 ans de violon que je chante devant ta fenêtre. 7 ans, c'est long, 7 ans maison entre nous. Moi, j'aimerais plutôt qu'on y mette une Lola, un petit homme, une Maya en personne. Premier pas pour Anton. Et un mot de toi, et c'est tout comme. Tout comme, tout comme, tout comme, tout comme, tout comme, tout comme, tout comme.
Voilà, c'était Mathieu Bogart, ce rendez-vous dans mon sandwich. Alors Jean-Louis Watté, mange-t-il des sandwichs? On peut lui demander puisqu'il est maintenant avec nous pour Saltant sur la planète.
La planète. Oh, le drôle, de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution? Optez pour la force des passions et menez le combat nécessaire.
Vous mangez des sandwichs, Jean-Louis ?
Ça arrive, mais je pense qu'il ne faut pas en abuser. Hein. Il faut quand même limiter.
Voilà. Bon. Bon, alors en France, une première approche d'observation des oiseaux communs par les ornithologues a vu le jour en 1989 et en 2006, le grand public a été sollicité pour observer, pour compter les papillons. Alors ce fut le début des sciences participatives. C'est vrai, je ne vous ai pas dit bonjour, Jean-Louis.
Bonjour Martine, bah oui c'est vrai.
Quand même, un petit peu de politesse. Hein.
Voilà.
Alors, en tant que président de Lettres et Nature, vous avez axé votre programme 2018 sur les sciences participatives et vous nous direz pourquoi, mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer à nouveau ce qu'on entend par sciences participatives ?
Alors, bon, les sciences participatives, qu'on appelle aussi les sciences citoyennes ou sciences collaboratives, en fait, la définition assez formelle, c'est une forme de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs, alors non scientifiques, non professionnels, bon, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. C'est-à-dire que c'est des programmes, les sciences participatives, c'est des programmes de collecte d'informations qui implique une participation du public dans le cadre d'une démarche scientifique. Donc là, il y a quand même une démarche scientifique, tout ça c'est bien encadré. Et l'application de ces sciences participatives au domaine de la biodiversité, donc ça se décline en trois objectifs. C'est d'abord d'avoir des données sur la nature et la biodiversité, pour étudier son état de santé. C'est de produire des outils de sensibilisation et d'éducation à la nature, à la biodiversité, puisque avec le public, on va pouvoir peaufiner justement ces outils de sensibilisation. Et puis en plus, c'est de former une communauté et de mobiliser autour d'enjeux qui sont liés à la nature. Donc voilà en résumé ce qu'on appelle les sciences participatives.
Alors, si j'ai tout compris, ces sciences reposent donc sur un trinôme, hein, un organisme scientifique qui élabore les protocoles et analyse les données, une association qui assure l'animation du programme et bien évidemment la communauté d'observateurs dont chacun peut faire partie. Alors, la commune de Lettrême, par l'intermédiaire de votre association, a parfaitement réussi cette expérimentation et voilà notre pourquoi. Vous avez donc été sollicité pour élaborer un atlas de la biodiversité communale.
Oui, tout à fait. Donc en juillet dernier, l'Agence française pour la biodiversité, alors il faut savoir que l'Agence française, ça a été créé assez récemment par la loi sur la biodiversité, hein, qui a été votée il y a quelques années. Donc cette Agence française pour la biodiversité lançait un appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation d'atlas de la biodiversité communale. Donc l'idée c'était de permettre à 500 communes en France de bénéficier d'un soutien financier afin de lancer une démarche d'atlas de la biodiversité communale, ce qu'on appelle un ABC sur leur territoire. Alors l'appel à projet a été lancé fin juillet 2017. Et il fallait y répondre pour le 15 septembre, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Donc l'Agence française pour la biodiversité a reçu 113 dossiers, donc qui correspondent à plus de 1000 communes, donc ce qui montre l'intérêt quand même du projet, qui ont tous fait l'objet, donc ces dossiers, d'une première analyse au niveau national, puis ensuite une évaluation plus détaillée au niveau régional. Et donc, le résultat, c'est que 47 collectivités, donc soit 40% des projets qui ont été déposés, ont finalement été sélectionnés pour un financement global de 5 millions d'euros. Donc, l'Agence française pour la biodiversité s'était fixé 500 ABC soutenus. Et puis la qualité des dossiers a conduit à en soutenir un peu plus, puisque les dossiers retenus représentent 685 communes. Alors, 685 communes qui sont réparties de la façon suivante. Il y a 18 communes seules en France, donc, dont on fait partie. Il y a 16 intercommunalités, par exemple l'île métropole européenne. Il y a 9 parcs naturels régionaux. Et il y a 4 syndicats mixtes qui ont été retenus, puisque seules les communes et les communautés de communes, les intercommunalités, pouvaient justement postuler. Et donc, nous, c'est la commune de Lettrême qui a postulé. Et donc on a monté le dossier avec la commune de Lettrême et ce dossier a été accepté.
Alors, certes Jean-Louis, mais un atlas de la biodiversité communale, pourquoi faire Jean-Louis? Et cela doit-il contribuer au progrès des recherches sur l'environnement et la biodiversité?
Oui, ça c'est le but, c'est bien de contribuer au progrès des recherches, à une meilleure connaissance. Un atlas de la biodiversité communale, c'est élaboré donc à l'échelle communale ou intercommunale, donc à partir d'un inventaire précis et cartographié, alors des habitats, de la faune, de la flore, et puis avec l'appui d'une équipe d'experts pluridisciplinaires. Donc l'objectif, les objectifs sont triples, hein. C'est d'abord de sensibiliser, mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité. C'est de mieux connaître la biodiversité sur le territoire de la commune, et puis d'identifier les enjeux spécifiques qui sont liés. Et puis c'est de faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place de politiques communales ou intercommunales, lors de la réalisation de projets. Eh bien donc on aura cet outil à disposition pour dire bah voilà, sur telle zone on a telle espèce et il serait prudent d'y faire attention.
Mais alors justement Jean-Louis Ouatté, cet atlas portera sur quelles espèces? Et je suppose que ce sera à la fois sur la faune et la flore, les deux étant inféodés comme vous nous l'avez toujours répété bien sûr.
Oui, ça va porter sur beaucoup d'espèces, hein. Ça va porter sur les oiseaux, ça va porter sur les amphibiens, sur les insectes, sur la flore, mais aussi sur les habitats. Faut pas oublier que les habitats c'est quand même fondamental. Donc il va falloir qu'on s'appuie justement sur une cartographie bien précise des différents habitats, hein, puisque si on prend par exemple les amphibiens. Eh bien, il faut qu'on ait un état des lieux complet, des milieux humides, des mares. On aura aussi, un inventaire des sols têtards. Donc, on aura une vision bien précise de ce qui reste comme sol têtard, parce que c'est quand même un arbre qui fait partie de notre patrimoine et qui, malheureusement, est menacé souvent par méconnaissance et aussi faute d'entretien, parce que c'est un patrimoine qui doit être entretenu.
Alors, justement, l'apport des citoyens à la connaissance scientifique, en tout cas dans ce domaine, est aujourd'hui indispensable. En effet, la participation de volontaires permet donc de récolter une grande quantité de données sur l'ensemble du territoire, et ce, de manière répétée dans le temps, données que les chercheurs n'auraient pu obtenir seuls. Alors, Jean-Louis, à qui ferez-vous appel pour participer justement à cette collecte d'informations ?
Bah, on va faire appel à des spécialistes, hein, parce que il y a des espèces qui sont quand même assez difficiles, qu'on peut pas déterminer comme ça, disons entre guillemets la fleur au fusil. Donc il faut faire appel à des spécialistes. Mais l'idée c'est que on puisse justement collecter ces informations en majorité avec le public, avec les habitants. Donc ça comporte plusieurs volets, hein, l'élaboration d'un atlas de biodiversité communale. C'est d'abord de réunir l'ensemble des acteurs locaux, hein, que ce soit les élus, acteurs socio-économiques, le grand public, les scolaires, les associatifs, afin de partager déjà les connaissances disponibles sur la biodiversité de la commune. Bon, je parlais des sols têtards, c'est important de faire participer le public pour cet inventaire. Sans ce public, l'inventaire sera pas complet. Même chose pour les mares. Si on veut une bonne connaissance des mares, des milieux humides, il faut qu'on s'appuie justement sur le public. Donc partager les connaissances déjà disponibles sur la biodiversité de la commune. Et puis le but, c'est aussi à partir de là de sensibiliser et de permettre à chacun de se mobiliser. Après, c'est de compléter les connaissances, hein. Il va falloir cartographier. Bon, on a déjà pas mal de choses, mais il va falloir les réactualiser et mettre à jour. Donc là aussi, on a besoin de professionnels ou d'associations naturalistes spécialisées, sur des thématiques, par exemple les chauves-souris, sur les oiseaux, on aura besoin du GON, de la LPO. Et puis après, ce sera aussi d'identifier les actions à mettre en œuvre pour justement protéger et valoriser cette biodiversité, et puis améliorer la prise en compte des enjeux dans les politiques communales et intercommunales. Et puis le but aussi, c'est que ce qu'on fait au niveau communal, ce soit un exemple au niveau intercommunal, pour que l'intercommunalité soit justement plus sensible aux problèmes de biodiversité. Et là, le challenge est important.
Alors, bien évidemment, Jean-Louis, la biodiversité est un système complexe, hein, dépendant de beaucoup de facteurs. beaucoup de facteurs, oui, on va dire, de beaucoup d'éléments, mais surtout aussi du changement climatique. Et grâce aux données récoltées, les scientifiques pourront certainement mesurer l'impact de ce changement.
Bah oui, tout à fait. Le but, c'est donc de pouvoir, au niveau là, si on prend par exemple toutes les communes qui ont été sélectionnées, hein, on a justement l'Agence française pour la biodiversité a mis en ligne une carte avec tous les atlas qui ont été tous les projets qui ont été retenus et sélectionnés, et donc on aura quand même un état des lieux assez complet au niveau de notre territoire. Pour justement voir un petit peu l'évolution et puis évaluer les changements. Alors si on notamment avec le changement climatique, on sait que bah il y a des espèces qui vont migrer, des espèces qui vont souffrir, d'autres qui vont justement profiter de ce changement climatique. Donc on aura quand même des outils justement pour mesurer ces évolutions.
Donc tous les passionnés de nature sont invités à participer, naturalistes débutants ou expérimentés, il y a aussi les scolaires, vous l'avez dit, peut-être nous, et pas forcément ceux qui habitent les Trèmes, ni ceux qui adhèrent à votre association. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous proposez une réunion ce jeudi 8 février à les Trèmes.
Oui, justement, donc on propose une réunion, c'est notre réunion, disons, habituelle, puisqu'on fait ça chaque année. Donc ici, ça prendra un relief particulier, justement, avec l'atlas de la biodiversité communale qui va donc démarrer ici cette année. Et donc, bah oui, c'est jeudi 8 février à 19h30 en mairie de les Trèmes. Donc on va faire le bilan des études qu'on a faites l'an dernier, puisque on a déjà on a pris pour habitude de faire des soirées inventaires, et donc on fera le bilan. Et donc cette année, bien entendu, toutes nos sorties inventaires, bon l'an dernier on en a fait sur on le fait sur un territoire qui dépasse les Trèmes, bien entendu, mais cette année on va se concentrer justement sur la commune dans le cadre de cet atlas de la biodiversité. Donc on va multiplier les sorties inventaires sur des thèmes divers. Alors on en aura pas mal sur l'ornithologie, mais on va continuer sur les coccinelles, sur les amphibiens, sur les sauterelles, les criquets, etc. Et donc sur les mammifères. Et donc, c'est ouvert à tous, hein, parce que le but, c'est bien de sensibiliser les lettrés et moi, mais aussi tous ceux qui sont passionnés d'activités naturalistes.
Alors, Atlas Jean-Louis Cela veut-il dire que les informations récoltées seront mises à disposition du public, et alors sous quelle forme, très vite?
Ah oui, tout à fait, puisque l'un des objectifs, c'est de partager les connaissances. Hein. Donc partager les connaissances, c'est bien via par exemple, les sites internet. Hein. Donc les données vont être mises en ligne, elles vont être accessibles. Et puis aussi via, par exemple, la page Facebook de la commune. Ça veut dire que la commune, dans le dossier, s'est engagée justement à faire connaître tous les résultats de ces inventaires. Et donc, c'est un point important, hein, ce partage de connaissances. Et donc, nous, l'association, ça va être notre rôle aussi de faire connaître
Diffuser.
Cet atlas de la biodiversité.
Alors justement, c'est un programme qui va durer combien de temps?
Alors c'est un programme qui va durer 2 ans. Hein, là, il y a 2 ans pour justement la mise en forme de cet atlas de la biodiversité. Et ces données vont être transmises au niveau national pour avoir, disons, pour aller enrichir les données nationales en termes de biodiversité. Et c'est l'un des rôles de l'Agence française pour la biodiversité.
Jean-Louis, merci. On invite donc les personnes intéressées à se rapprocher de votre association en tapant les Trèmes Nature dans un moteur de recherche. Eh bien, on tombe à la fois sur votre site et sur votre blog avec toutes les coordonnées, qu'elles soient adresses ou coordonnées téléphoniques. Merci Jean-Louis. Et à la semaine prochaine.
Merci Martine, et puis bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Au revoir.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se cache la gueule et qui rigole. Toujours jours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je suis toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je suis toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes efforts, mes arrivées. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères.
Eh bien oui, lui aussi est le meilleur copain de tout ce petit monde. On accueille Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Et ce, pour notre rubrique « Jardiner autrement ».
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement ? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors nous voici donc en février, comme le disent les dictons, février le plus court des mois et de tous le pire à la fois. Ou alors il y a encore celui-ci, hein, février entre tous les mois, le pire et le moins courtois. Alors c'est vrai que février a mauvaise presse et que durant ce mois, on peut avoir des retournements de temps les plus hasardeux, n'est-ce pas ?
Ben oui, effectivement, si février est le mois le plus court de l'année, il est souvent chez nous, hein, le plus froid. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même au cœur de l'hiver. Donc il peut y avoir de très belles périodes de beau temps, suivies de fortes gelées. Hein, et cette semaine, d'ailleurs, ce sera une semaine très froide.
Tout à fait, mais bon, c'est à souhaiter finalement, hein, vous l'avez dit.
Ah oui, tout à fait, souhaitons-le.
Alors justement, c'est aujourd'hui la Sainte Agathe et on leur souhaite donc une bonne fête. Mais indique-t-on dit avec beaucoup d'humour, à la Sainte Agathe, on reste au chaud dans ses pénates. Alors mais ceci ne vous correspond pas aussi, nous descendons dans le jardin avec vous. Alors Claude Nougaro chantait bien souvent, très souvent, il y a des coups de vent, des beaucoup, beaucoup de vent. Et suite à ces coups de vent, Bertrand, on voit beaucoup de particuliers abattre leurs grands arbres. Alors on devine pourquoi, bien sûr. Alors comment peut-on savoir si un arbre représente un danger ?
Alors, déjà, c'est bien souvent à cause de nos erreurs que l'arbre va représenter un danger. Alors, parfois, on va dans une pépinière, on a un coup de cœur, hein, on voit une petite plante, un petit arbuste, hein, donc on va le repiquer à proximité de sa maison. Et avec le temps, il grandit tellement qu'il devient gênant, il fait trop d'ombre, trop de lumière, alors là, on commence à le tailler. Alors, pire, on les lague. Et c'est là que tous les ennuis commencent, parce que on fragilise énormément l'arbre, et chaque élagage, chaque taille, ce sont des portes d'entrée grandes ouvertes aux maladies. Donc un arbre doit pouvoir grandir et s'épanouir, et plus on le taille, plus il sera fragile. Mais si on le laisse sans taille, sans élagage, sans rien, l'arbre va résister très bien aux tempêtes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de planter un arbre, il faut déjà savoir à quelle hauteur il va faire à l'âge adulte. Donc éviter de mettre des grands arbres à proximité des maisons. Donc plus l'arbre sera grand, plus on va l'éloigner des maisons. Hein, on va le mettre plus loin. Donc souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de tailler. Et il faut savoir aussi lire les étiquettes. Quand vous lisez une étiquette d'un arbre ou d'un arbuste, vous avez la hauteur de l'arbre. Mais vous avez la hauteur à 10 ans. Donc à 20-30 ans, il sera donc beaucoup plus grand. Donc il ne faut pas se fier uniquement à l'étiquette. Vous l'avez à 10 ans, mais il faut savoir que ça va grandir un peu plus. Voilà ce que
tout
je peux
à
dire
fait.
Là-dessus.
Voilà. Tout à fait, Bertrand. Et Dieu sait si le temps passe vite.
Effectivement.
Et bon, finalement, ce que vous venez de dire, c'est une question de bon sens, finalement.
Oui, tout à fait.
Alors, justement, parlons fleurs à présent. Que faire au jardin en février ?
Alors, pour ce qui concerne les fleurs, on peut continuer à nettoyer les massifs, en enlevant toutes les parties sèches des plantes. On peut également leur apporter un peu d'engrais organique. Hein. En février, les bruyères sont en fleurs en ce moment. Quand elles sont défleuries, eh ben, on peut les tailler. On enlève toutes les parties florales défleuries avec une cisaille. Hein. Une cisaille aérée, ça va très bien. On enlève 5-6 cm pour que la bruyère reste bien en boule. On pourra aussi diviser, si le temps le permet, bien sûr, certaines plantes vivaces ou des bulbeuses, par exemple les galanthus, ce qu'on appelle les personnages, on peut les diviser pour en mettre à droite à gauche. Hein. On peut également planter d'autres bulbes comme les lys, les anémones de camp, etc. On peut aussi commencer les semis au chaud à l'intérieur, des plantes annuelles, capucines, tagettes, etc. Il y a plein de plantes annuelles qu'on peut commencer à semer en ce moment. Hein. S'il neige, parce que là c'est bien, mais s'il neige, il faut faire attention aux branches des arbustes fragiles. Donc il faudra secouer les branches pour enlever la neige, et puis aussi pour les camélias, tous les boutons floraux qui peuvent être brûlés par la neige. Donc on secoue un peu tout ça. Ouais, en février, il y a quand même pas mal de travail au jardin d'agrément.
Tout à fait, et ça nous fait prendre l'air. Alors Bertrand, le dicton dit à la Sainte Agathe, sème ton oignon même dans la glace. Et puis il y a aussi celui qui dit, si tu sèmes tes poireaux à la Sainte Agathe, pour une graine, tu en auras quatre. Alors, l'avis de l'expert ?
Alors, les dictons sont souvent de bons repères. Par contre, chez nous, dans le Nord, comme ça chez nous, on va attendre quand même fin février, début mars, pour semer les poireaux en couche ou sous serre. On peut tenter d'en semer maintenant, hein, c'est à Sainte Agathe, mais à ce moment-là, il faudra les semer à l'abri du froid, au chaud. Hein. Par contre, une graine ne donnera jamais quatre poireaux, hein. mais bien un poireau qui peut-être en vaudra quatre.
D'accord, un gros poireau, on va dire.
Un gros poireau, un gros et bon poireau. Voilà.
Alors, quant à elles, eh bien, elles sont insectivores, elles mangent des moustiques et des coléoptères et sont donc elles aussi de précieux auxiliaires pour le jardinier, mais voilà, elles sont mystérieuses et elles font quelquefois peur, alors qu'elles ne sont absolument pas dangereuses. Alors, bien sûr, en hiver, il n'y a pratiquement pas d'insectes, on va dire, donc pour survivre, elles hibernent. Alors, Bertrand, on peut en trouver chez soi sous un hangar ou une petite cavité, et le conseil est de surtout ne pas les déranger, car cela peut mettre leur vie en danger. Et bien sûr, je parle des chauves-souris.
Tout à fait. Donc, il existe énormément d'espèces de chauves-souris. Je crois qu'il y en a même 22 dans la région, espèces sous espèces. Ce sont des animaux à protéger absolument, car elles mangent énormément d'insectes, environ 600 par heure, donc à chasse la nuit. Et on peut les considérer comme de véritables insecticides naturels. Donc, ce sont vraiment nos auxiliaires. Alors, l'été, elles dévorent énormément d'insectes parce qu'elles ont besoin d'augmenter leur poids d'environ 30%, ce qui leur permet d'hiberner dès octobre pour environ 5 mois. Alors, malheureusement, elles sont aussi victimes comme les oiseaux, comme les abeilles, tout ça, des pesticides, des traitements chimiques, des charpentes, et leur nombre est en train de diminuer. Donc, l'hiver, elles hibernent, et leur température corporelle, qui est d'environ à peu près 38 degrés, à peu près comme nous, l'été, va chuter à 10 degrés. Elles hibernent donc à l'abri du froid, du gel, dans des granges, des grottes, des tunnels, des greniers, etc. Donc il ne faut surtout pas les déranger, ne surtout pas faire de bruit, ni mettre de la lumière à proximité, parce qu'on risque de les réveiller, et auquel cas, elles ne vont pas survivre. Alors, en plus de nous débarrasser de nombreux insectes, parce qu'il y a des gens qui ont des chauves-souris dans leur grenier, et qui n'apprécient pas tellement, mais elles nous offrent leur excrément sur les petites crottes, là, c'est du guano. Et c'est un excellent engrais, un très riche engrais. Donc on peut l'utiliser pour nos plantes, et on le dilue dans l'eau, on l'arrose, et c'est super bon. Et pour finir, non, elles ne s'accrochent pas dans les cheveux, non, elles ne portent pas malheur, et non, elles ne mordent pas pour nous sucer le sang.
Tout à fait, bah bien sûr. Bon, bah, c'est vrai que si on les regarde de près, elles sont pas vraiment très très mignonnes, mais bon, il y en a d'autres. Alors, bien sûr, Bertrand, vous venez déjà de nous en donner quelques-unes, mais bien sûr, on attend toujours votre astuce pour jardiner autrement, c'est-à-dire sans pesticides, mais aussi sans fongicides. Et justement, à ce propos, comment peut-on enlever la mousse qui actuellement envahit nos pelouses ? Et est-ce que c'est le bon moment ?
On peut encore attendre un mois, mais surtout, on ne va pas utiliser de sulfate de fer. Effectivement, cela fait mourir la mousse, mais il acidifie également le sol encore plus. Du coup, la mousse, l'année suivante, va revenir de plus belle. La mousse, on a de la mousse, pourquoi ? Parce qu'on a de l'humidité, un sol tassé, souvent à l'ombre, et de l'acidité dans le sol. Donc, plutôt que de mettre du sulfate de fer, il vaut mieux utiliser de la chaux, ou alors des produits qui sont tout faits à base de sode, comme du cyanamousse, qui est à base de chaux, ou alors épandre du lithotame. L'isotame, c'est très riche en calcaire, en oligoéléments, ça neutralise l'acidité du sol et ça favorise l'humus. Donc au printemps, on peut scarifier la pelouse, c'est très bien de scarifier la pelouse, et tout de suite après, on apporte un engrais pour pelouse. Ou alors mieux, on peut apporter du bactériosol. Bactériosol, c'est un produit qui va amener des bactéries dans le sol, qui crée l'humus, qui apporte également des champignons pour une bonne mycorhization. Donc avec ce produit naturel, qui est utilisable aussi en culture bio dans les potagers, hein, les racines iront beaucoup plus en profondeur dans la terre, la pelouse sera beaucoup plus forte, elle sera plus verte, et du coup, la mousse ce sera en concurrence avec la mousse, et la mousse ne va pas l'emporter. Hein. Voilà. En septembre, alors surtout aussi l'été, et puis en fin d'année, n'allez pas tondre la pelouse trop rare, parce que là, on laisse la place à la mousse. Hein. Et en septembre, on remet encore un peu d'engrais organique complet pour redonner un peu de vigueur à la pelouse avant l'hiver. Et si l'herbe est forte, ben la mousse a du mal à s'implanter. C'est ce que je disais juste avant. Hein. Donc voilà. Et une petite astuce. Alors, j'ai pas essayé, mais il paraît qu'on peut épandre de la cendre de bois sur la pelouse. Il paraît que c'est très efficace contre la mousse.
D'accord.
Alors, bien souvent, les gens oublient qu'il faut nourrir la pelouse avec des engrais et des engrais organiques et tout ça. Il faut quand même la nourrir, la pelouse. Hein.
Bien sûr. Alors, ma dernière question, bien sûr, Bertrand Trinel, quoi de neuf au sein de votre association des paysages, des jardins et des hommes ?
Alors, nous, on a une bonne nouvelle à annoncer. Il y a un an et demi, on avait installé une plateforme à cigognes dans notre jardin associatif, le jardin de l'Ermite. Hein. Et depuis une quinzaine de jours, un couple de cigognes semble y construire leur nid. Donc, elles restent sur le nid, elles semblent apporter des branchages. Donc, on est très contents.
Ah, tout à fait.
Ah ouais, c'est super.
Vous les avez baptisés ?
Non, non, elles ne sont pas baptisées. Mais bon, voilà, on est très contents de ça. J'espère qu'elles vont rester parce que c'est un peu tôt. Et on verra bien on verra bien.
Et voilà. Vous verrez bien si elles reviennent tous les ans. Finalement.
Voilà. Mmh. Déjà, on aimerait bien qu'elle fasse leur nid vraiment cette année.
Tout à fait. Ah, ben c'est super. Vous allez prendre des photos, bien sûr, et mettre sur votre blog.
On en a mis sur notre blog. Hein.
Tout à fait. Alors, eh bien, merci Bertrand, et je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci Bertrand.
Merci, bonne semaine également. Hein.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Et une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir, pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit, qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau. Avec le mec dans l'eau. en voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues. C'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.
Thomas Fersen et sa chauve-souris, une belle histoire, n'est-ce pas? Eh bien, en voici d'autres.
Paul Léoteux disait: les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre, et je parle de toutes les bêtes.
Bonjour Christine.
Bonjour Martine et bonjour à tous.
Alors, adopter un chien ou un chat, c'est accomplir un acte utile plutôt que acheter, car c'est donner une seconde chance à un animal, c'est lui offrir son droit au bonheur et puis le voir s'épanouir, procurer une joie immense. Et puis un animal adopté reste éternellement reconnaissant. Et à ce propos, Christine, il y a sur le site du refuge de Vermel de très belles histoires d'adoption, justement.
Oui, Martine, de belles histoires qui font chaud au cœur, car après avoir vécu le pire, eh bien, c'est-à-dire l'abandon ou les maltraitances, eh bien, les chiens ou les chats retrouvent un foyer où ils reprennent confiance en l'homme. C'est parfois difficile, mais avec beaucoup d'amour, eh bien, les miracles arrivent, et puis les bénévoles et les salariés du refuge font vraiment un travail exceptionnel pour redonner confiance à ces pauvres animaux abandonnés par des personnes avec des excuses, Martine, disons-le, bien souvent bidons.
Tout à fait.
Par exemple, Titus fut un cas d'extrême violence. Titus a été attaché à un fil avec une pierre et il coulait dans les eaux. Quand un brave éclusier l'a vu, il n'a eu qu'une idée en tête, le sortir de là. À l'issue de ça, Titus a dû être amputé. Il a été placé en famille d'accueil quelques temps pour retrouver confiance, parce que il était vraiment traumatisé. Et il a enfin trouvé une maîtresse qui lui a redonné confiance, et il vit maintenant des jours heureux.
Oui. Bon, on a no comment, n'est-ce pas?
Alors, oui, Martine.
Pour aller sur votre site, bien, il suffit de taper dans un moteur de recherche refuge de Vermel, et toutes les petites bouilles à adopter ont leurs photos.
Exactement, Martine. Et vous retrouverez également les conditions d'adoption, les tarifs. Nous avons également une page Facebook. Le principe est le même que pour voir le site internet. Vous saisissez dans Google Refuge Vermel, et là vous avez Refuge Vermel, la page de Facebook et le site internet. Les deux sont complémentaires. Sur la page Facebook, on voit aussi régulièrement des gens qui amènent des témoignages, qui envoient des photos de l'animal qu'ils ont adopté. Et j'avoue que c'est un moment de bonheur pour nous.
Tout à fait. Et puis, alors là, les artistes s'unissent pour la cause animale ce dimanche, et cela se passera à l'espace François Mitterrand à Bully-les-Mines.
Exactement. Donc, c'est la troisième fois que les artistes patoisans se réunissent pour la cause animale, et que l'espace François Mitterrand nous accueille. Et ça s'appelle Un pâté de rire exceptionnel. C'est vrai que c'est un spectacle unique que vous ne reverrez jamais nulle part, puisque c'est une union de plusieurs patoisans, et ça a lieu donc à l'espace François Mitterrand à Bully-les-Mines ce dimanche 11 février à 15h30, ouverture des portes à 14h30. Si vous souhaitez réserver, c'est encore possible.
Alors, il y a donc encore quelques places disponibles, Christine. Donc,
oui.
On rappelle que les réservations se font soit par téléphone au 03 21 72 71 90 ou par mail à l'adresse nina62470@hotmail.fr. Nina62470 tout collé @hotmail.fr. Alors, sur scène, il y aura Alain Lampense, que nos auditeurs connaissent bien puisqu'il partageait son patois et ses bonnes histoires avec nous, on va dire, sur cette antenne de Radio Plus. Donc, Alain sera là.
Alain, oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, hein, qui met toute son énergie pour réunir tous ses patoisans, qui fait la promotion de ce dimanche, qui prépare aussi le spectacle, puisque c'est pas, il faut une trame. Et Alain, franchement, merci à lui, c'est un homme au grand cœur.
Et puis bien sûr, Alain ne sera pas seul, comme vous l'avez dit.
Oui, bien sûr, il y a la compagnie du Reste Ici, René Maginel, la compagnie de l'Artichaut et Sylvain Tanière.
Qui est le fils de
Edmond Tanière,
bien sûr, et qui reprend
les
toutes
chansons.
Les chansons. Voilà.
Oui, de façon remarquable. Hein.
Tout à fait.
Merci
alors,
à tous ces patoisans.
Alors, une bonne patte de rire, donc, et ce, au profit de vos petits protégés qui attendent un bon foyer.
Oui, Martine, les bénéfices seront intégralement versés au profit de nos petits protégés. Je vous rappelle que le refuge n'est pas subventionné. Une subvention de la mairie de Vermel, mais malheureusement qui ne suffit pas à combler donc
les besoins, on va dire.
À faire vivre le refuge, hein, puisque c'est un budget annuel de d'au moins 140 000 euros. Et donc, il nous faut payer les frais vétérinaires, l'alimentation, l'entretien des locaux, les contrats qui sont chez nous. C'est pas rien, quand même. Voilà.
Et voilà. Et on peut toujours, si on ne peut pas se déranger, on peut vous faire un don, n'est-ce pas, Christine?
Oui, bien sûr.
Alors, le numéro, on rappelle que le numéro de téléphone pour les réservations, c'est donc le 03 21 72 71 90. 03 21 72 71 90. Merci Christine.
Merci pour eux.
Et bien sûr, on vous souhaite une salle bien pleine.
Merci
Christine. Voilà, c'est la fin de l'air du temps. Et avant de nous dire, de vous dire au revoir, eh bien, je vous remercie d'avoir passé cette heure avec moi, mais aussi avec Jean-Louis Ouetté, Bertrand Trinel et Christine Defort, que l'on remercie pour leur intervention. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis, après la petite page de publicité, si vous le voulez bien, on poursuit ensemble, mais là, place à la musique. Très très bonne semaine à vous.
Vous êtes commerçant, artisan ou chef d'entreprise? Vous désirez faire connaître votre activité avec un budget adapté à